Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous. RTL Grand Soir, c'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée. À tête reposée avec à la une ce soir, l'hommage aux quatre policiers tués sur leur lieu de travail jeudi dernier. Silence ce matin, recueillement à la préfecture de Paris avant le discours, fort, très fort, offensif même, du président de la République.
L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. C'est la nation tout entière qui doit s'unir. Nous ne l'emporterons que si notre pays se lève pour lutter contre cet islamisme souterrain qui corrompt les enfants de France. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir.
L'appel d'Emmanuel Macron, une tonalité, vous l'avez entendu, très politique avec cet appel à la vigilance de tout un chacun. Resserrer au mieux les mailles du filet dans nombre de secteurs, comme dans le monde du sport, dès l'école ou en club, en association. On va évoquer ce dossier justement dans un instant avec la montée de la radicalisation dans le domaine sportif. Notre invité sera Médéric Chapiteau, formateur de terrain. Puis des Français en colère dans la rue aujourd'hui, agriculteurs, retraités, écologistes ou encore des gens tout simplement inquiets pour leur santé comme à Rouen encore ce soir. La météo demain, ce sera visiblement très perturbé, très contrasté. On en saura plus avec Patricia Charbonnet, mais plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Un silence impressionnant dans la cour de la préfecture de police à Paris ce matin. Le lieu même où s'est déroulé le drame de jeudi dernier. Julien Fautram, vous avez assisté pour RTL à cet hommage, hommage solennel rendu aux quatre fonctionnaires assassinés. Ce matin, le climat était lourd, très lourd.
En effet, ce ciel très bas, moitié blanc, moitié gris, le peloton continue. Les uniformes des policiers sont trempés, c'est même le déluge lorsque, doucement, un à un, les cercueils recouverts du drapeau bleu, blanc, rouge entrent dans l'enceinte de la préfecture de police. Silence total par moment. D'un côté de la grande cour, des policiers qui ont la mâchoire serrée, certains me l'ont confirmé après, l'envie de crier leur colère. À côté des cercueils, les familles. Interdiction de les approcher, de les interroger, de les filmer ou de les photographier. Marque de confiance du président de la République à l'égard de son ministre de l'Intérieur, en pleine polémique, c'est Christophe Castaner qui remet, à titre posthume, la Légion d'honneur.
Commandant Damien Ernest.
À Damien Ernest.
Président de la République, je vous fais
Anthony Lancelot, Brice Lemesquin.
Capitaine
et Aurélia Trifiro.
Au nom du président de la République, je vous fais chevalier.
Parmi les policiers qui ont porté le cercueil, deux ont été victimes d'un malaise, signe d'une extrême émotion à l'heure de rendre hommage aux quatre victimes de la tuerie du 3 octobre.
Julien Fautra pour RTL à la préfecture de police ce matin à Paris. Créer une société de vigilance, remonter la filière, éveiller les consciences, savoir repérer, mobiliser chacun d'entre nous. Le discours du président Macron n'a laissé personne indifférent. Invité de Thomas Soto dans RTL Soir à 18h20, la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen.
Ces mots sans concession, je les ai entendus 10 fois dans la bouche de tous les présidents de la République successifs. Je suis de surcroît assez inquiète dans le discours du président de la République lorsque je l'entends nous expliquer que la vigilance va suffire.
Comment on évite que demain, à la préfecture, à la poste, dans le métro, dans le bus, dans une école ou ailleurs, un terroriste passe à l'acte? Quelle est votre solution?
Alors ma solution, c'est de rétablir le crime d'intelligence avec l'ennemi. C'est-à-dire que toute personne qui a une relation avec une association criminelle ou terroriste est immédiatement traînée devant une cour d'assises. Est-ce qu'on ne peut pas démarrer par fermer les mosquées salafistes, démantibuler les associations dont nous savons pertinemment qu'elles sont le vecteur de l'islam radical, s'attacher à ce qui a fait l'objet d'un rapport parlementaire, à savoir le développement de l'islam radical dans les associations sportives. C'est-à-dire ce qui est sous nos yeux, et bien même ce qui est évident et ce qui est sous nos yeux, l'État ne fait strictement rien, ou plutôt le gouvernement ne fait strictement rien.
Marine Le Pen avec Thomas Soto ce soir dans RTL, soir sur RTL, et la présidente du Rassemblement National d'ajouter, je cite sur le terrain politique, si le Premier ministre Édouard Philippe assume tout, alors il doit démissionner. Invité d'RTL Grand Soir, Médéric Chapiteau qui nous rejoint, qui est spécialiste de la radicalisation dans le milieu sportif. Vous êtes également ancien sous-officier de gendarmerie et professeur de sport. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous voulez entendre la réaction de Marine Le Pen. C'est sous nos yeux ce qui se passe aujourd'hui, autour de nous, dans les entreprises comme dans l'école. Et dans le sport, qui est un terreau presque idéal pour le radicalisme ?
Le sport est un espace de socialisation par essence, donc effectivement, il peut y avoir du recrutement qui se fait en son sein, puisqu'il draine énormément de personnes tout au long de la jeunesse, des jeunes adultes, voire des adultes. Donc c'est normal que le sport soit pénétré par cette forme de radicalisme et par cette forme de recrutement, oui, tout à fait.
Et aujourd'hui, vous l'avez constaté, c'est un chiffre qui augmente à chaque fois quand on cherche des jeunes enfants ou des jeunes adultes même qui sont enclins à aller vers l'islamisation.
Alors, j'aime pas trop la notion de chiffre parce que, comme la plupart du temps, les chiffres sont secrets en termes de fichage. Il n'y a pas de chiffre. Par contre, on a des cas qui sont avérés et donc on peut en tirer des tendances et voir modéliser certaines pratiques. Effectivement,
Pas de chiffre. Je vous interromps, mais des responsables du renseignement avaient indiqué qu'il y avait 12,5% de personnes suivies pour radicalisation il n'y a pas très longtemps.
Tout à fait, c'est ce que je vous disais, sauf que c'est en perpétuelle évolution et en fait on ne peut pas mettre ça sur tous les sports.
D'accord.
Il y a des sports qui sont plus criblés que d'autres.
Quel sport ?
On a des familles d'activités qui sont criblées depuis 2010, hein, depuis le Conseil de l'Europe, des textes du Conseil de l'Europe. On retrouve essentiellement les sports de combat, la musculation, le tir sportif et le futsal, le football, ouais, tout à fait.
Le football en salle. Et qu'est-ce qui fait la différence ? Comment peut-on alerter selon la volonté du président Macron aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est pas, comme tout à l'heure on le disait, avec évidemment l'auteur de l'attentat, c'est de ne pas serrer une main aux femmes, c'est un comportement, c'est sous la douche garder un caleçon, c'est une façon de décaler les entraînements ?
Tous les signaux qui ont été évoqués tout à l'heure, ils existent depuis déjà très longtemps et sont utilisés depuis très longtemps, que ça soit dans le sport ou dans la vie en quotidien, dans tous ceux qui travaillent autour de la prévention de la radicalisation. L'important de tous ces de détection pour détecter avec tous ces signaux, l'important c'est de les contextualiser. Les choses ne font pas c'est pas la même chose dans un club de sport que dans la vie au quotidien, parce qu'il y a le contexte qui fait que ça prend plus d'importance que d'autres, comme ça a été évoqué depuis deux jours. Effectivement, au quotidien, pour le cas du sport, un éducateur sportif va vite se rendre compte s'il observe des changements de comportement au sein de son groupe, il va très très vite l'identifier. Et son boulot en tant qu'éducateur sportif, c'est pas à la base de signaler, c'est de préserver la sécurité physique et morale de tous les pratiquants qu'il a avec lui dans son
club. Alors aujourd'hui, on lui demande un plus, c'est-à-dire de signaler, de faire remonter cette information à une hiérarchie.
Mais en fait, mais c'est déjà le cas, on le demande depuis le plan national de prévention.
Mais c'est écouté, c'est mis en application après ?
Oui, ça commence à être mis en application réellement. Il faut pas, là pour le coup, il faut être objectif. Et depuis 2018 et depuis ce plan de prévention, il y a des formations qui sont mises en place au niveau national et ça se met en place et par le biais du ministère des Sports et du CIPDR. Et ça, là, j'étais encore dans des préfectures ces derniers temps et ça se met en place.
Il y a assez de référents pour vous. Il y a assez de référents dans ce monde-là, dans le monde du sport.
C'est ce que je vous dis, ça vient de se mettre en place. Donc aujourd'hui, toutes les fédérations sont en train de se mettre en place. Il y a au niveau et des fédérations et des organes déconcentrés.
C'est pas un petit peu tard quand même parce que ça fait longtemps que l'on parle évidemment de ces phénomènes dans les vestiaires, dans les clubs, les associations, presque une cellule de recrutement.
Mais aujourd'hui, quand on parle de ça, quand on parle de sport, que ce soit les médias, que ce soit tous les passionnés de sport, l'horizon c'est 2024. On parle des festivités. C'est normal, ça va être une grande fête, etc. Et chaque médaille a son revers. Et aujourd'hui, c'est ça le revers de notre médaille. Donc effectivement, aujourd'hui, on est en retard à l'allumage par rapport à cette thématique-là, parce que c'est pas évident pour le mouvement sportif de se remettre en question, au même titre que tout le reste de la société, sur cette thématique qui est à l'envers, qui est au contraire, qui est en totale contradiction avec les valeurs qu'on véhicule dans le sport. Donc c'est pas évident au quotidien, pour les éducateurs, bénévoles et professionnels, les dirigeants, de s'approprier cette thématique. Mais ils le font.
Restons vigilants, on l'a bien compris ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation en direct dans RTL Grand Soir. Médéric Chapiteau, je rappelle que vous êtes spécialiste de la radicalisation dans le milieu sportif. Il est 22h08, on va revenir sur l'attaque et ses dysfonctionnements avec la chaîne habituelle de suivi dans ces occasions. La création d'une commission d'enquête a été actée et cet après-midi, le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État, Laurent Nunez, après s'être expliqué le matin à huis clos devant les sénateurs, et bien cette fois ont répondu aux interrogations de la commission des lois de l'Assemblée. Une audition plutôt technique sur l'organisation même de la préfecture de police, c'est des procédures à revoir, où bien souvent le terme « secret défense » a été utilisé. Mais des réponses quand même, comme le fait par exemple que les propos qui légitimaient l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015 n'avaient pas été remontés jusqu'au plus haut dans sa hiérarchie, ou encore le fait que l'assaillant de la préfecture de police se soit marié en 2014 et qui aurait dû provoquer alors un nouveau contrôle dans le cadre de son habilitation secret défense justement. Et puis cette question posée par Éric Ciotti, le Républicain, sur la légitimité aujourd'hui de Christophe Castaner et sur ses propos prématurés prononcés jeudi dernier devant la préfecture.
Vos propos hâtifs ont altéré la crédibilité de votre fonction.
Monsieur Éric Ciotti, qu'ai-je dit ? La vérité. la vérité des éléments qui étaient connus au moment où je m'exprime. Ensuite, il y a des enquêtes qui peuvent faire apparaître des faits différents. En l'espèce, c'est le cas. Vous les personnalisez sur le ministre en charge de responsabilité aujourd'hui, c'est votre choix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les faits. Ma responsabilité, c'est d'être dans ce moment de tempête à la tête de ces hommes et de ces femmes. C'est celle d'avoir pu, ces derniers 3 jours, être en lien constant avec les familles des victimes et de passer beaucoup plus de temps à les écouter qu'à vous écouter sur les plateaux télé.
Propos recueillis par William Galibert, service politique d'RTL. L'enquête, elle, continue et se focalise sur cette fameuse clé USB saisie au bureau de l'assaillant Michael Harpon. Et au-delà des images qui contiennent de la propagande islamique, les enquêteurs s'intéressent ce soir aux données personnelles des policiers retrouvés sur cette fameuse clé.
RTL Grand Soir. Christophe Paco.
700 personnes à Rouen ce soir pour demander la plus grande clarté aux autorités comme aux responsables de l'usine Lubrizol sur les effets inhérents à ce genre de propagation de fumée noire, mal identifiée encore pour l'heure. Les manifestants réclament transparence, vérité et une expertise indépendante pour mesurer au mieux les conséquences de l'accident. Les investigations ont en tout cas débuté sur le site ce matin à Rouen, tandis que 130 plaintes ont déjà été enregistrées, 130 plaintes déposées par des habitants, entreprises ou communes qui sont touchées par les conséquences de cette catastrophe. Et puis des paysans sur le bitume aujourd'hui, positionnés à des carrefours stratégiques un peu partout à travers le pays, des agriculteurs mobilisés pour faire part de leur détresse et lutter également contre ce qu'on appelle communément l'agribashing, ou encore sur les fameuses normes pesticides. À Aix-en-Provence, ils étaient en tout cas une bonne centaine devant la sous-préfecture. En immersion pour RTL, Étienne Baudu est allé aux côtés de ces producteurs pour mieux comprendre leur mal-être.
Oui, les agriculteurs ont le vague à l'âme avec un sentiment de rejet, même si au contact des automobilistes rencontrés, le courant semble pourtant bien passé.
Bonjour, on donne des pommes. On est agriculteurs, on donne des pommes.
C'est gentil, je vous en prends une
ou deux.
Merci
comme
beaucoup.
Voulez,
merci infiniment et on pense à vous, on vous soutient.
Ils ont également répondu aux interrogations des automobilistes avec souvent la même question.
Est-ce qu'il y a des pesticides dans les produits français?
Quand vous êtes malade, est-ce que vous prenez un antibiotique?
Des fois du Doliprane.
Voilà. Vous prenez un produit pour traiter votre maladie? Nous, c'est pareil. Aujourd'hui, quand notre plante elle est malade, on utilise un produit pour qu'elle se guérisse. C'est exactement pareil. Sauf que nous, en France, on les utilise avec les meilleures conditions pour qu'il y ait le moins de risques pour le consommateur.
Ouais, c'est bon, j'ai compris.
Le raisin, il est comment, là?
Le raisin, il est bon. Le pur produit français, ça, c'est bon.
Alors, les produits français, justement, selon Patrick Lévesque, le président de la FDSEA Bouches-du-Rhône, ils sont sujets à une concurrence déloyale.
Notre agriculture, elle est vertueuse. Donc, n'allons pas importer des produits qui viennent de l'étranger, qui ne respectent pas. On prend le Canada. 46 insecticides, enfin produits phytosanitaires, qui sont interdits en Europe. Et on va les importer, ces produits. Où est la logique?
D'où ce slogan en forme de question entendu aujourd'hui. France, veux-tu encore de tes paysans?
Étienne Baudu, reportage aujourd'hui à Aix-en-Provence. La manifestation sans violence débutée hier place du Châtelet par des membres d'XR à Paris. Les membres d'Extinction Rébellion se poursuivent encore ce soir. Sur cette même place, ces militants promettent, on le rappelle, la désobéissance civile au service du climat. Et puis nouveau mouvement de colère, le 8e depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, de la part des retraités aujourd'hui encore. En cause, le pouvoir d'achat. Écoutez plutôt René, rencontré dans les rues de la capitale par Eric Vanier.
Ça baisse. Il y a un rattrapage à faire sur plusieurs années. Il y a des choses qu'on ne peut plus payer, quoi. On commence à s'endetter, c'est le cas de dire. Bon, c'est plus possible, quoi. On est obligé de demander des regroupements de crédit parce que, voilà, quoi. Sans faire la grande vie, hein, sans fumer, sans boire, c'est plus dur. Faut connaître, c'est plus dur. On ne peut pas aider les petits-enfants. Il y a pire dans le monde, mais bon, puis même en France. Mais bon, c'est... Enfin, ils craignent quand on sort dans la rue quand même, ils craignent un peu, mais ils ont le pouvoir. Puis la réforme des retraites, bon, ben, ça fait peur.
Ça fait peur pour René, aux côtés d'Éric Vanier, service économique et social d'RTL. Et puis en plein débat sur ce sujet et de la question de l'âge pivot pour la future réforme des retraites, pas inintéressant de rappeler le résultat de cette enquête parue ce midi, qui stipule que l'espérance de vie en bonne santé en France, une vie sans incapacité, était en augmentation chez nous. On parle en moyenne de 63 ans pour les femmes et de 64 pour les hommes. Les négociations sur le Brexit entre Londres et les Européens, toujours très compliquées évidemment, notamment sur le dossier de la frontière irlandaise. Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, a déclaré ce soir que les efforts continuent pour trouver un accord entre Londres et Bruxelles. Le retour du bras de fer entre club et équipe nationale de football. Laissé au repos ce week-end, Kylian Mbappé, le Parisien, et le Munichois Lucas Hernandez semblent être aptes à jouer dès ce week-end. Ils sont en tout cas bien arrivés hier à Clairefontaine et font toujours partie du groupe retenu par le sélectionneur national Didier Deschamps. Alors, priorité nationale contre investisseurs. Les clubs, en tout cas, ont monté le ton, Philippe Sanfourche, mais en vain.
Oui, l'attaquant du PSG, pas totalement remis d'une blessure à la cuisse gauche. Le club parisien a fait savoir qu'il serait souhaitable de le ménager au moins pour le premier match. Méthode beaucoup plus musclée au Bayern Munich qui avait carrément menacé le week-end dernier de retenir Lucas Hernandez en délicatesse avec son genou. Didier Deschamps l'a convoqué et le joueur met fin au débat ce soir. C'est un document RTL M6.
J'ai passé une RM hier. Mon genou il est bien, il est correct et il n'y a rien à craindre, on va dire. Je pense que le plus important c'est le ressenti du joueur. C'est le joueur qui doit décider et moi je me sens à 100%.
Lucas Hernandez qui veut toutefois rassurer son club du Bayern Munich.
Oui, je les comprends parfaitement. C'est un club qui pense beaucoup aux joueurs. C'est pour ça qu'ils ont pris tellement soin de moi pendant cette semaine-là. Et voilà, pour l'instant je m'entraîne à l'écart, mais si le coach veut me mettre vendredi pour le premier match, je serai à 100%.
Et selon nos informations, il débutera bien vendredi en Islande. Kylian Mbappé, lui, pourrait être préservé en vue du choc contre la Turquie.
Ah, le choc lundi 20h45 au Stade de France. Avec vous, Philippe Sanfourche, l'équipe des sports d'RTL. Du côté des féminines, match éliminatoire ce soir de l'Euro 2021. Les Françaises sont allées s'imposer dans le froid au Kazakhstan. 3-0. Les buteuses, Valérie Gauvin, Eugénie Le Sommer. Et puis la petite pépite parisienne, hein, a marqué Marie-Antoinette Katoto à la toute fin de partie.